Vous êtes sur RTL.
Dans quelques instants, notre invité vous propose de découvrir les pompes à chaleur Sony Duval. RTL Soir, il est 18h51, c'est l'heure choix répartition des tâches, Thomas.
Oh bah c'est facile, hein. C'est Catherine Boulay pour l'International, bonsoir Catherine.
Bonsoir.
C'est Julia Moulcou pour la Culture, bonsoir.
Salut,
Julia.
Thomas.
Et c'est Christian Ménanteau pour l'Économie, bonsoir Christian.
Bonsoir.
Alors Catherine, vous nous emmenez dans une charmante petite ville allemande qui s'appelle Görlitz, c'est ça, hein?
C'est ça, c'est à la frontière avec la Pologne.
C'est ça.
Et on vous propose de la tester, cette ville, pour faire venir des habitants. Vous connaissez le slogan « L'essayer, c'est l'adopter ».
Oui.
Et ben c'est exactement ça. On vous prête un appartement pendant un mois, on vous prête un lieu de travail. La seule chose qu'on vous demande en contrepartie, c'est de remplir un petit questionnaire pour savoir ce qui va et ce qui ne va pas dans la ville.
Mais pourquoi ils font ça?
Ils font ça parce qu'en 1989, la plupart des habitants sont partis, vous savez, après la chute du mur.
Ouais.
Donc il y a eu une saignée de 25% des habitants. Aujourd'hui, il n'y a plus que 54 000 personnes qui habitent là, puisque cette saignée n'a jamais été...
C'est joli, Görlitz, ou pas?
C'est très très joli.
On peut y aller pour les vacances, on dit j'y vais pour un mois et tac.
C'est extrêmement joli d'abord.
Hein,
non, architecture, renaissance, gothique, baroque, tout est rénové. Vous avez de la peinture jaune, verte. Il fait 14 degrés aujourd'hui avec de la pluie, mais allez-y au printemps, je pense que c'est très joli.
Elle est bien, Catherine, elle fait la météo aussi.
La seule chose qui peut vous retenir, c'est que voilà, c'est aussi une ville qui vote beaucoup à l'extrême droite. Aux dernières élections européennes, aux dernières élections municipales, 37% pour l'AFD. C'est tendance un peu droitière. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des réalisateurs qui vont y tourner. Par exemple, Tarantino qui a tourné Inglourious Basterds. Vous avez Wes Anderson qui a tourné Grand Budapest Hotel. C'est charmant, mais les gens n'y restent pas. Ils y passent. 140 000 touristes par an aussi qui y passent. Donc voilà, le maire, il s'est juste inspiré de deux villes américaines, Détroit et Tesla, qui ont fait exactement la même chose.
C'est la voiture.
Et voilà, exactement. Et il espère que ça va marcher.
Et ben voilà, si quelqu'un va à Görlitz après cette chronique de Catherine, vous nous envoyez un petit mail de là-bas. Vous dites si c'est sympa ou pas. Une petite carte postale, c'est ça, une carte postale à l'ancienne. Christian Ménanteau, en tout cas, on pourra bientôt plus y aller en bus impérial à Görlitz.
Ça, c'est clair.
C'est un problème qui est plus britannico-britannique, mais qu'est-ce qui se passe avec ces bus?
Pas encore la fin d'un monde, mais enfin, Londres nous quitte déjà, hein, on en parle tous les jours, le continent va être isolé avec le Brexit, mais je pense que c'est encore plus terrible que ça, les bus à impérial, les fameux bus rouges, vous savez, qui sont emblématiques de la capitale anglaise, vont peut-être à terme disparaître, tout simplement parce que le fabricant irlandais, qui est le grand spécialiste de ce qu'on appelle les double-decker buses, il est en train de faire faillite.
Vous avez notre franco-britannique Catherine Boulay qui ouvre des yeux énormes, mais qu'est-ce qui se passe, le patrimoine s'envole.
Elle pourra encore les utiliser quelque temps, il y a les anciens, mais dans les nouveaux, elle ne pourra pas y aller.
Non, mais ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est le problème de ventilation à l'intérieur. Il y a un vrai problème de vis de forme dans ces bus.
Il y a plus que ça, il y a un défaut de conception, et puis ils ont mal fabriqué leur bazar. Et donc, c'était censé être des bus à faible émission de CO2, et on se retrouve avec des passagers qui étaient à demi étouffés, et donc il a quand même fallu arrêter les frais. Ça a coûté évidemment des dizaines de millions de livres aux constructeurs. Alors Londres va y survivre, mais ce système de magnifiques bus...
Il y aura un autre constructeur qui va sortir un autre modèle, non?
Les Chinois sont déjà sur le coup. Ils sont en train de leur proposer un nouveau modèle de bus à l'impérial. Impérial, ça va bien avec la Chine. Rouge aussi, c'est la couleur de la Chine. Donc ça devrait le faire.
L'avenir est déjà tout tracé et il se passe à l'Est, selon Christian Ménanteau, pour les bus londoniens. Julia Moulcou est arrivée, elle dit... J'ai un bouquin, super, faut que j'en parle. C'est quoi cette folle aventure là?
Le livre dont vous parlez s'appelle Louvre, il est signé Jocelyn Guillois et il nous raconte la folle aventure des 4000 œuvres du musée du Louvre cachées pendant la Seconde Guerre mondiale par le directeur alors en poste à cette époque qui s'appelait Jacques Jaujard et qui va prendre cette décision en 1939, quelques jours avant la déclaration de guerre à l'Allemagne.
Mais comment il a fait pour cacher toutes ces œuvres?
D'abord, il a sélectionné 23 châteaux français qui offraient de bonnes conditions de conservation. Ensuite, il a engagé les manutentionnaires des grands magasins parisiens pour venir décrocher, décadrer, puis rouler les toiles qui pouvaient l'être et mettre en mal les sculptures et les objets. Enfin, pour transporter tout ça, il fallait des camions. Il a d'abord réquisitionné des camions de cochons, des vrais gros camions qui d'habitude transportaient des porcs. Puis c'est la Comédie Française qui lui a prêté d'immenses camions pour transporter des œuvres qui n'étaient pas roulables.
Et puis, c'est un film votre truc.
Ils ont roulé de nuit, phares éteints, pour ne surtout pas éveiller l'attention des avions allemands qui circulaient déjà dans le ciel français. 1800 œuvres seront ainsi cachées au château de Chambord, devenu un bunker et un laboratoire, parce que Jacques Jaujard, pendant le temps où les œuvres étaient cachées, il en a profité pour en faire restaurer 80.
Incroyable.
Le type était incroyable.
Vous connaissiez l'histoire, vous, Catherine, Christian?
Non. Est-ce que vous savez que Chambord était une cachette? C'est hallucinant. Dingue.
Est-ce que vous savez quelle a été l'œuvre, la première œuvre à être décrochée?
Moi, je sais. Dit. Mona Lisa.
Oui, exactement, la Joconde. Ce qui est dingue, c'est qu'elle a été décrochée, puis cachée à Paris. Ils ont attendu la fin du mois d'octobre pour la transférer hors de l'Île-de-France, et ils ont changé 7 fois de planque pour la Joconde. Quand on pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas la déplacer d'un millimètre, vous imaginez ce que ça voulait dire. Bref, tout est vrai dans Louvre. Et ce qui est génial avec Jocelyn Guillois, c'est qu'il nous raconte cette histoire à travers les yeux de 3 femmes. La première, c'est Marcel, la femme de Jacques Jaujard. La seconde, c'est Carmen, la fille du conservateur chargé de veiller sur Chambord. Et la troisième, c'est Jeanne Boitel, une actrice entrée dans la résistance au début de la guerre et qui va avoir comme but de découvrir dans quel camp se situe vraiment Jacques Jaujard. Est-ce qu'il est du côté des Français ou est-ce qu'il est en fait du côté des Allemands? Le livre est passionnant, c'est aux éditions du Seuil.
Jocelyn Guillois, ça s'appelle Louvre. C'est au Seuil. Ah oui, il y a une dédicace. Non. Pour Julia Molcou, cette histoire féminine et sauvage du plus grand déménagement d'œuvres d'art en temps de guerre. Signé Jocelyn Guillois. Merci beaucoup, merci les amis.